C'est à votre avis qui commence, Eric Manirakiza, avec vous ce soir. Vous l'avez suivi, le nouveau président de l'Afrique du Sud s'appelle Cyril Ramaphosa. Il est aussi le président de l'ANC. Il a été élu aujourd'hui et hier soir, Jacob Zuma avait présenté sa démission au terme d'un long bras de fer sous la menace imminente d'une motion de défiance de son parti. Monsieur Ramaphosa s'est engagé devant le Parlement à éradiquer la corruption et de travailler très dur pour ne pas décevoir le peuple sud-africain. Est-ce pour vous un vrai renouveau que vous inspire la démocratie sud-africaine? Vous avez été nombreux à commenter sur notre page Facebook. Il y a déjà le commentaire de Ben Zali qui dit « Les pays anglophones pratiquent la vraie démocratie en Afrique et les pays francophones, à travers leurs dirigeants, jouent au panafricanisme pour s'éterniser au pouvoir avec quelquefois la complicité de la population. » Guilin Tshiongo, il dit « Zuma fut un président très médiocre de l'Afrique. Maintenant, c'est le tour d'un autre président dont je ne voudrais pas citer le nom que Guilin a nommément cité. Ils se connaissent, ils sont tous les mêmes. Là, il parle de Ramaphosa et Jacob Zuma. Moussangi Kimenge, il félicite les Sud-Africains. Félicitations. Nathan Kasongo, ce ne sont que des manipulations pour écarter Zuma au pouvoir. Oscar Mwembo, coup de chapeau au Sud-Africain Barthélémy Moleba. C'est un système politique de l'ANC. Ils ont changé de dirigeant d'Ombeki à Zuma, maintenant de Zuma à Ramaphosa. Voilà les quelques commentaires. Albert Kalongo, il dit à qui le prochain. Il parle d'un autre président africain. Voilà pour les quelques commentaires. Nous aurons des auditeurs en ligne, mais avant de leur passer la parole, nous avons posé des questions à une Sud-Africaine qui est à Pretoria. C'est une analyste pour savoir si la page Zuma qui est tournée ouvre une nouvelle ère dans le pays arc-en-ciel. Elle s'appelle Lizor Lo Vaudran.
Je pense que c'est une nouvelle ère qui s'ouvre en Afrique du Sud. Après 10 ans presque de règne de Jacob Zuma et ses camarades autour de lui, dans toutes les instances, beaucoup de gens autour de Jacob Zuma ont été accusés de corruption. Et donc, Ramaphosa vraiment mène avec lui un vent d'espoir, je pense, parmi même l'opposition. Il y a un espoir que Cyril Ramaphosa va vraiment et non seulement éradiquer la corruption, mais vraiment travailler pour améliorer l'économie du pays, encourager les investissements, redorer le blason d'un pays qui a tous les potentiels. Et Sunas Mandela est à Bombay, qui était vraiment sur des bons rails. Et, mais ça va pas être une tâche facile du tout, parce que il y a des problèmes structurels dans l'économie sud-africaine. Il y a le chômage, il y a des problèmes dans le secteur minier, chômage des jeunes. Aussi, on a un grand problème dans notre système d'éducation qui sont profondes et qui vont être très difficiles à améliorer sur le court terme. Mais au moins, aujourd'hui, tout de suite, la bourse de Johannesburg a explosé aujourd'hui. Le rang de la monnaie a gagné en valeur. Au moins, il y a un espoir de nouvelle époque.
Ramaphosa, il était vice-président de Jacob Zuma. Comment peut-on percevoir ce changement comme un renouveau?
Oui, absolument. Ça, c'est une question que on pose souvent, mais lui-même, personnellement, n'a jamais été accusé de corruption. Il n'est pas du tout impliqué dans des scandales autour de Jacob Zuma. Donc, on va voir dans les prochains jours. Beaucoup d'analystes pensent qu'il y aura un nouveau gouvernement avec plusieurs nouveaux ministres. Donc, Ramaphosa va être obligé de nettoyer un peu autour de lui dans les rangs de l'ANC et mettre ses hommes et ses femmes qui sont de son camp au gouvernement. Sinon, ça ne va jamais marcher parce que ça va être une équipe divisée, profondément divisée d'ailleurs.
quelles leçons faut-il tirer?
La démocratie est unique et le système gouvernemental électoral est aussi unique. Et je pense qu'on va beaucoup réfléchir sur ce système. Vous voyez, c'est pas un système présidentiel, donc nous n'avons pas des élections présidentielles. Tout repose sur le parti et quelque part, le pays tout entier est parfois pris en otage par le parti au pouvoir. C'est-à-dire tout le drame de ces derniers mois a eu lieu au sein de l'ANC.
Le cas de l'Afrique du Sud reste quand même intéressant. On ne voit pas l'armée s'immiscer dans les affaires politiques. Ce n'est pas l'armée qui contrôle le pouvoir chez vous.
Oui, absolument. Et c'est intéressant parce que nous avons vu fin novembre nos voisins au Zimbabwe. La seule façon dont le parti au pouvoir, le ZANU-PF, arrivait à se débarrasser de Robert Mugabe, c'était parce qu'il y avait les militaires dans les rues. Ici, en Afrique du Sud, heureusement, l'armée sud-africaine a, depuis 1994, une tradition vraiment très républicaine. On n'a jamais eu aucun rôle de l'armée dans la politique. C'était lors de l'époque d'apartheid où l'armée était utilisée pour le système d'apartheid, pour la répression, pour garder au pouvoir le gouvernement d'apartheid. Mais depuis, l'Afrique du Sud, malgré nos problèmes, nous avons quand même un système judiciaire qui fonctionne très bien, qui est très indépendant. Il y a un média indépendant, très libre. Il y a beaucoup de journaux d'investigation. La société civile est très active. Si on compare l'Afrique du Sud avec d'autres pays africains, une chance que nous avons, c'est vraiment qu'il y a différents secteurs dans la société qui fonctionnent très bien et qui peuvent, par exemple, la lutte contre la corruption, c'était vraiment grâce à ces organismes de société civile, la presse, etc., qui a révélé tous ces scandales autour de Jacob Zuma. Sinon, peut-être ça aurait duré encore beaucoup plus longtemps.
Voilà les explications de Lise-Lou Gaudron, qui essayait de donner des explications, qui expliquait comment fonctionne le système sud-africain. Nous avons Eratus en ligne. Eratus, bonsoir. Eratus. Eratus, je pense qu'il y a un problème de communication avec lui. On va donner la parole à Brahima Doumbia. Brahima, bonsoir.
Bonsoir à tous. Bonsoir à tous les interviewés.
On vous écoute.
Voilà, moi je salue cette décision, surtout noble des accords de décider sans que le Parlement ne se prononce là-dessus, puisque la dimension avant que le Parlement ne se prononce, je pense. Je pense aussi que quand on vient au pouvoir, ça peut servir la nation et non pour s'enrichir. Vu les dossiers quand même qui l'attendent, je pense qu'il a beaucoup à faire. La démocratie sud-africaine, je dis que c'est une démocratie mature en quelque sorte, puisque l'armée n'est pas impliquée, c'est un processus entre surtout entre les membres de l'ANC. Quand l'un part, l'un revient. C'est ce que j'ai constaté depuis Tambouki jusqu'à à la cause de moi. Mais malheureusement, les dirigeants de l'ANC, quand ils viennent, ils finissent généralement mal. Je pense que ce nouveau président, quand même, ne va pas ternir l'image de l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud est un exemple, surtout sur le plan économique. Elle devrait quand même être un exemple aussi sur le plan de la démocratie et de la bonne gouvernance, surtout en Afrique.
En N'Djamena, nous retrouvons Christian Djerabé. Merci, Brahima. Christian, bonsoir.
Oui, bonsoir, Eric.
Je vous écoute.
Oui, par rapport à la démocratie sud-africaine, il faut voir qu'il y a une grande différence entre la démocratie sud-africaine et la démocratie de l'Afrique centrale, voire l'Afrique de l'Est. C'est toujours l'Afrique francophone a qui termine l'image de la démocratie. La démission des accords du mois doit quand même donner un exemple à d'autres paysans qui ne veulent pas céder le pouvoir à d'autres. Donc j'apprécie vraiment la décision de la démocratie sud-africaine.
Merci Christian pour votre commentaire. Apollinaire Seriabé, bonsoir.
Bonsoir monsieur.
Vous êtes également au Tchad, je vous écoute.
Oui, vraiment je tiens à saluer ce qui vient de passer en Afrique du Sud. En ce qui concerne la démocratie, on peut rapprocher l'Afrique du Sud au Ghana.
Il y a un problème de téléphone. Apollinaire.
Oui.
Ça s'entrecoupe, il y a un problème de communication. On va essayer de rétablir ça, mais vous avez dit dans votre commentaire que la démocratie sud-africaine est solide, que la corruption ne peut pas s'installer dans le pays définitivement. Zuma était venu à la tête de l'Afrique du Sud avec beaucoup d'énergie, mais il a fini par être incorrompu. Cyril Ramaphosa va sans doute relever le défi. On voit le maçon au pied du mur. C'est le commentaire de Apollinaire Seriabé. Diarra Kanyoumé, bonsoir.
Oui, bonsoir Eric, bonsoir tous les plateaux de VO Afrique. Je vous appelle toujours dans mon village natal à Sonikini.
Je vous écoute.
Ok, merci Eric. À mon avis, je pense que vraiment M. Zuma l'a bien fait pour démissionner, mais il faut imaginer que vraiment il a découragé les peuples avant qu'il va abandonner le pouvoir. Donc à mon avis, je pense que vraiment il faut que le nouveau président il doit faire plusieurs plaisirs avec la population, sinon Zuma il a fait beaucoup de détournements de fonds publics. Donc à mon avis, je pense que vraiment le nouveau président il va tomber dans crise économique en Sud-Afrique. Donc il faut que non, le peuple sud-africain doit savoir que si le nouveau président il vient au pouvoir, donc il a beaucoup de travail à faire. Donc il ne faut pas que non, ils vont faire beaucoup de choses pour lui expliquer. Non, l'économie n'a pas monté rapidement. Sinon, à mon avis, je pense que la justice de Sud-Afrique doit mettre un mandat d'arrêt contre M. Zuma parce qu'il a fait beaucoup de détournements de fonds publics, à mon avis.
Merci, Diarra Kanyoumé, pour votre contribution. M. Zuma, il est présumé innocent et il n'y a pas eu de condamnation jusque-là. Merci et bonne soirée chez vous. Tidiane Botégué, bonsoir.
Oui, bonsoir, merci Eric, et bonsoir à tous les auditeurs de la VOA.
Vous avez la parole.
Oui, en tout cas, vaut mieux tard que jamais. Donc, c'est pourquoi vraiment je salue la décision qu'a pris Jacob Zuma, parce qu'il a montré vraiment le pouvoir, c'est le peuple et non les élus. Donc, aussi, vraiment, je dis vive aux institutions fortes, et vraiment, je rends hommage aux institutions sud-africaines qui ont enquêté vraiment sur les soupçons et de détournement de fonds publics et de corruption sur lesquels vraiment Jacob Zuma est accusé. Et surtout ces institutions qui ont aussi vraiment refusé catégoriquement de garantir une immunité à Jacob Zuma en naissance de sa démission. Donc je pense que là, vraiment, ça restera vraiment une école sur laquelle ce tout nouveau président vraiment en tirera des leçons pour le futur. Parce que là, en tout cas, ça a été une école. Donc une école sur laquelle aussi vraiment le pays de l'Afrique francophone, surtout le président Alpha Condé, vous avez Alpha Condé, c'est le président de la Guinée, donc je suis originaire de la Guinée, là où vraiment la corruption vraiment bat du record. Donc je pense que c'est là, en tout cas l'exemple sud-africain, que ce soit sud-africain, zimbabwéen, kenyan, vraiment doivent interpeller les dirigeants de l'Afrique francophone, monsieur Eric.
Tidiane, vous êtes encore là?
Oui, je suis là, je suis là.
En Afrique du Sud, le président de la République ne peut pas à donner de l'immunité à quelqu'un qui est poursuivi par la justice. Il ne peut que lui accorder une grâce présidentielle en cas de condamnation. C'est très différent. La justice est très indépendante là-bas. Merci pour votre contribution. Nous retournons au Mali pour retrouver Bakary Keïta. Bonsoir, Bakary.
Bonsoir.
Je vous écoute.
Bon, vous croyez que le parcours de Zuma, quand même, servait de beaucoup d'enseignements. Si nous voyons, par exemple, la manière dont il est venu au pouvoir et aussi la manière dont il a quitté au pouvoir. C'est-à-dire qu'il est venu au pouvoir suite vraiment à une démission de Thabo Mbeki. Lui aussi, il rend sa tablée aussi, sur son tablée suite aussi à des problèmes cycliques.
Bakary, il faut se rappeler que après la démission de Thabo Mbeki, ce n'est pas Jacob Zuma qui l'a remplacé immédiatement.
D'accord, mais également lui aussi, il est parti quand même par une démission. Ça montre que, c'est-à-dire l'ANC d'abord est à féliciter, est à saluer. Même si vous dirigez le pays, si vous êtes quand même impliqué dans des malversations, il faut que les pratiques du parti vraiment vous disent non, ça ne peut pas continuer comme ça. Vous êtes là pour servir non seulement vraiment la nation et le parti, enfin, si le parti vraiment ne se désolidarise pas de son action, et aussi l'image du parti vraiment sera ternie. Vous voyez. Vous savez, moi, je suis ravi, je ne sais pas vraiment si c'est sans aussi saluer vraiment l'historique opposant. C'est Galemah qui a d'abord demandé même des motions de censure contre Zuma, mais finalement, ça a vraiment payé.
Merci Bakary. Nous retrouvons Youssouf Ouedraogo. Il est en Côte d'Ivoire. Bonsoir.
Oui, bonsoir Afrique, aux auditeurs, à toute la rédaction.
Vous avez la parole.
Alors, moi, je pense que après avoir quand même refusé une prime de départ de plus de 150 millions de dollars de l'amnistie en contrepartie de l'abandon de près de 700 présumés chefs d'accusation, Jacob Zuma est resté donc droit dans ses bottes comme pour défier l'avenir commun pour assouvir ses propres convictions. Et aujourd'hui, il se retrouve à être fini par succomber à la tentation de la myopie politique ainsi que de sa sourde d'oreille. Alors, c'est donc l'histoire qui semble se répéter en Afrique du Sud et qui n'a visiblement pas l'air de s'arrêter avec ce changement dans la continuité, pourrons-nous dire, avec un Cyril Ramaphosa loin d'être un exemple d'exception positive. Alors, sur le plan démocratique, il faut souligner quand même que c'est une démission salutaire qui illustre aussi le niveau de la maturité démocratique des États anglophones comparativement aux États francophones. Et c'est vraiment ce que nous pouvons souhaiter comparativement aux États francophones, comme je le disais, préférable aux munitions armées auxquelles l'Afrique est dans sa majorité confrontée. Alors, il va falloir pour l'exécutif montant sortir l'Afrique du Sud de l'incertitude politique née de la pathologie de la corruption et surtout de la morosité économique du pays pour se redonner un destin de prospérité partagé dans l'espoir de sortir aussi de l'apartheid économique.
Merci, merci pour votre contribution. Nous allons recevoir Traoré Aruna. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez la parole.
Et comment ça va?
Ça va très bien. Je vous écoute.
Vous allez bien?
Je vous écoute, je vais bien.
Ok. Alors, moi, je disais tantôt que pour Ramaphosa joue maintenant son avenir politique et la crédibilité de l'ANC. Dans la mesure où il sait que ses deux prédécesseurs ont tous été acculés vers la sortie. Donc, maintenant, il sait que s'il ne fait pas bien la tâche qu'il est confiée, s'il ne le fait pas bien, cela permettra de ternir l'image de l'ANC sur le plan national, régional et puis international aussi. En plus, il sait que tout le monde est d'accord que Zuma a. Et il a défi sur toute la ligne. Allô?
Aruna, oui, vous dites dans votre message bravo au pays des institutions fortes. On voit distinction nette justement. Des trois pouvoirs, l'exécutif, législatif et le pouvoir judiciaire. Et vous dites que Ramaphosa, il ne doit pas décevoir, qu'il va faire honneur à Madiba et ses compagnons. Nous avons maintenant Eddy en ligne. Bonsoir, Eddy.
Bonsoir.
Vous avez la parole.
En fait, pour moi je salue cette démocratie en Afrique du Sud. En fait, il va falloir que le nouveau président Cyril Ramaphosa fasse aux choses sérieuses, puisque M. Zuma a vraiment terni l'image de la ANC qui est au pouvoir. Oui. Donc, il va falloir que le nouveau président se mette à réconcilier tous les membres du parti et que le parti gagne un peu force pour aller aux élections en 2019.
Merci, Eddy Sirima, pour votre contribution. Yao Marcelin Kofi, bonsoir. Vous êtes en Côte d'Ivoire, à Abidjan.
Bonsoir, Eric. Et bonsoir à tous les lecteurs de la Vie en Afrique.
Vous avez la parole.
Bon, moi, je pense que c'est une démission salutaire parce que la présence de M. Zuma à la tête de l'État sud-africain était vraiment encombrante, gênante à la fois. Parce que vu ces débats judiciaires, vraiment, il ne méritait pas de continuer vraiment son mandat jusqu'à terme. Ça, c'est ce que je retiens. Maintenant, à nouveau, la démocratie, moi, je note une avancée en matière de démocratie dans ce pays. Comme je l'ai toujours dit, les pays anglophones sont un peu en avance sur les pays francophones en matière de démocratie. Ça c'est, il faut le reconnaître en toute sincérité. Maintenant, bon, je retiens aussi une leçon de bonne gouvernance. Surtout cela qui a retenu ma attention. C'est une leçon de bonne gouvernance parce que la corruption doit être combattue. Et c'est ce que c'est l'exemple que les Sud-Africains ont donné, c'est ce qui me frappe en fait. Voilà, les Sud-Africains ont démontré que vraiment la corruption peut être combattue jusqu'au plus haut sommet de l'État. Et ça, c'est un bel exemple de bonne gouvernance. Voilà. Qui épouse enfin le 30e sommet de l'Union africaine qui s'est tenu récemment à Addis Abeba le 28 et 29 janvier. Et qui avait axé son programme sur la lutte contre la corruption.
Merci Yao pour votre commentaire. Steve Biko, bonsoir.
Oui, bonsoir monsieur le journaliste.
Je vous écoute.
Ok, selon moi, j'ai vu très bien que la démission de monsieur Zuma, d'une part on peut dire que c'est bien, et d'une autre part on peut dire que c'est pas normal. Parce que pour la partie qui est bien, il a sauvé la vie de la population zimbabwéenne. Si il se récidivait, il aura des morts, des tourments de sang, et cela nous déplorons. Mais ce qui est un peu bizarre, ils ont introduit beaucoup de conditions. En fait, ils avaient dit qu'ils devaient payer $50 pour sa propriété privée. Il a eu à rembourser tout ceci. Malgré ça, ils ont tout fait pour le faire quitter le pouvoir brusquement. Pourtant, il est encore au service. Vous voyez que c'est un peu exécrable. Donc, en un mot, j'ai vu que cela m'a beaucoup déploré et d'une part, ça m'a racailladé.
Merci.
Je pense pour sa démission.
Merci Steve pour votre commentaire. Il y a Alphonse Mbouaki qui dit que le parti en Afrique du Sud, un parti politique, peut destituer le président du pays, contrairement aux autres pays où le chef du parti, le président de la République plutôt, détient le pouvoir absolu. Pa Yanfu, il dit, je ne suis pas surpris avec la démission de M. Zuma. C'est un président, selon lui, corrompu. Ramaphosa doit donner un bon exemple, car les Sud-Africains attendent de lui de la vraie démocratie, d'une bonne gouvernance. L'Afrique du Sud nous montre la vraie démocratie qui ne cache pas son nom. J'interpelle les pays corrompus de faire de même. Et John Fabé, il dit, je dis d'abord bravo au peuple sud-africain et l'ANC pour avoir fait ménage et rétablir l'ordre, car Jacob Zuma a orchestré des malversations exagérées dans le pays. Au nom de la démocratie de ce pays cher, j'interpelle ici Ramaphosa de joindre l'acte à la parole en traduisant devant la justice, Jacob Zuma et ses complices. Ce n'est pas le président du pays qui traduit en justice les citoyens. Il y a une justice qui doit faire son travail. Il y a Philippe Biona qui dit « Nous félicitons le président sortant, donc Jacob Zuma, pour sa bonne décision, la décision qu'il a prise de démissionner. » Emmanuel Fanao, l'Afrique du Sud est un modèle de démocratie dans le monde. Erox Bafo, il dit, qui est ce Ramaphosa? N'avait-il pas géré le pays avec Zuma? Ils sont tous les mêmes. C'est le point de vue de Erox. Et c'est la fin de À votre avis ce soir. Eric Manilakis a été avec vous et je vous souhaite de passer une agréable soirée. À la prochaine.